Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour madame.
Pourquoi est-ce que uniquement les 6 militants de la Lucha qui ont été condamnés à Goma bénéficient de cette grâce et pas les autres prisonniers politiques qui sont sur la liste du Haut Commissariat ?
Non, d'abord, les 6 militants de Lucha ont déjà fait l'objet d'une condamnation définitive. La grâce présidentielle n'intervient que quand il y a eu condamnation définitive. D'autres sont encore en procédure. Tant qu'ils sont en procédure devant le juge, le président ne peut pas agir. Donc maintenant, nous allons d'abord appliquer les 3 ordonnances présidentielles. En fonction de ces ordonnances, il y a des personnes qui peuvent bénéficier des libérations conditionnelles. Alors maintenant, les services vont préparer les autres cas et dans les prochaines semaines, je signerai les arrêtés.
Donc ça veut dire que ce serait possible que certaines des personnes qui se trouvent sur la liste du haut-commissaire bénéficient de cette remise en liberté provisoire ?
Ce n'est pas exclu, ça va dépendre de l'examen de chaque dossier.
Parmi les critiques formulées par le haut-commissariat sur ces cas-là, il y a le fait que les droits de la défense ne seraient pas respectés. Prenons juste le cas de Fred Bauma, Yves Makwambala ou Christopher Goy. Ils ont attendu un mois et demi avant de pouvoir être présentés au parquet et de bénéficier d'un avocat. Est-ce que ça, en soi, ça n'aurait pas nécessité une annulation de la procédure ?
Non. Dire qu'ils n'ont pas eu accès à un avocat, c'est tout à fait faux. Donc la plupart de toutes ces personnes ont pu avoir la possibilité, disons, de faire venir un avocat. La procédure a peut-être été un peu longue au début, avant qu'il ne soit présenté devant le magistrat, mais sinon, le procès s'est passé avec les avocats, ça c'est clair.
Mais vous avez eu l'assurance, par exemple, qu'ils aient bénéficié, dès le premier jour de leur détention, qu'ils aient pu bénéficier de la possibilité de demander un avocat ?
Ils avaient cette possibilité, mais je reconnais que les premiers jours, ils n'ont pas eu droit aux visites en tout cas, mais ils avaient la possibilité de le faire.
Et vous pensez que c'est eux qui ont renoncé à ce choix ?
Non, au début, il n'y a pas eu la demande. Au début, mais après, quand ils ont fait la demande, ils ont eu les avocats qu'ils voulaient.
Comment expliquer alors les critiques du haut-commissariat en la matière ?
Il faut relativiser. Hein. Moi, j'ai vu le haut-commissaire, il a été invité ici par nous parce que il était important qu'il vienne se rendre compte sur place des avancées réelles que nous avons. Nous sommes les seuls pays en Afrique au sud du Sahara qui a envoyé en prison des généraux, des colonels, des majors pour des violences sexuelles. Mais il est évident que le commissaire souhaiterait certainement que nous puissions nous trouver à un moment donné au niveau des standards de la Suède ou de la Norvège. Bon, bien sûr, c'est peut-être l'idéal, mais nous n'y sommes pas encore. Mais je n'ai pas considéré la visite du haut commissaire comme elle a été totalement peinte en noir en ce qui concerne, disons, la République.
Mais alors comment expliquer que le commissaire soit allé jusqu'à dire qu'il ne pourrait pas y avoir de dialogue crédible dans le pays parce que la répression était trop forte ?
Bon, je pense que le commissaire vise certainement un idéal, hein, mais je pense que par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays voisins, dans le continent, on ne peut pas dire que nous soyons un régime tout à fait répressif. Hein. Vous savez qu'ici, on a plus de 60 chaînes de télévision et radio qui, à longueur de journée, insultent tout le monde, y compris le président de la République, son épouse et tous les ministres de la République. Dans d'autres pays, ces gens seraient en Bastille et ce n'est pas le cas. Pour des raisons diplomatiques, je ne peux pas les citer.
Mais selon le Haut-Commissariat, et c'est pour ça qu'il dit manifester une inquiétude, depuis le mois de novembre, on assiste à une explosion de ce type de violation à caractère politique.
Non, si vous regardez également les rapports du Bureau conjoint des Nations Unies, les statistiques sur les dernières années, ces statistiques démontrent très clairement que nous avons des avancées, ça c'est clair. Bien sûr, on entre dans un processus électoral et il y aura beaucoup d'activistes, en fait, disons, qui voudraient peut-être qu'il y ait du désordre. Nous avons également la mission pour nous, de pouvoir public, de maintenir l'ordre. Bien sûr, on ne peut pas permettre que toutes les manifestations qui pourraient se faire au niveau de Kinshasa transforment la capitale en chien-lit.
L'une des premières critiques sur ces aspects politiques par le commissaire, c'était le double standard qu'il dit existe entre majorité et opposition sur les autorisations, sur... Est-ce que c'est un point que vous reconnaissez ?
Non, pas du tout. Je me rappelle que les dernières manifestations à Kinshasa, nous avions demandé au gouverneur de ne pas donner l'autorisation à la majorité présidentielle qui voulait manifester le même jour que l'opposition. Nous avions senti que cela allait créer des troubles dans la ville.
Monsieur le ministre, merci.